Jean chapitre 9. Jean chapitre 9, à partir du premier verset. Il est écrit ceci. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. « Maître, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. » Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. » Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, « N'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait ?» Les uns disaient, « C'est lui. » D'autres disaient, « Non, mais il lui ressemble. » Et lui-même disait, « C'est moi. » Ils lui dirent donc, « Comment tes yeux ont-ils été ouverts ?» Il répondit, « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai pu voir. » Nous allons au verset 35, la Bible dit, Jésus apprit qu'il l'avait chassé, donc on avait chassé cet homme, et l'ayant rencontré, il lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?»« Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. » Et il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il adora. Puis Jésus dit, « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Donc voilà la parole de Dieu, et nous prenons Apocalypse 2, 17. Apocalypse 2, 17. Il est écrit dans Apocalypse 2, 17. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Amen. Voilà, le thème de ce matin, c'est un destin personnel et glorieux. Donc, un destin personnel. Nous avons tous un destin personnel et glorieux en même temps. Même si il reste personnel, en général, mais ce qu'on voit aussi en général, c'est qu'il n'est pas glorieux. Pourquoi il n'est pas glorieux? Parce que ce destin personnel, beaucoup de gens ne veulent pas l'assumer. Dieu a un plan pour chacun. Mais le problème des humains, c'est qu'ils veulent à tout prix avoir les mêmes caractéristiques, les mêmes plans, la même vie que les autres. Et, ou alors, la même vie, le même système que dans le passé. Et ça, ça fait que Dieu n'agit plus dans les gens parce que les gens veulent lui imposer leur plan et ils ne veulent pas laisser Dieu faire son plan dans leur vie. C'est pourquoi j'ai dit un destin personnel. Donc l'un des grands obstacles qui fait que les humains, les chrétiens, entre guillemets, n'entrent pas dans la gloire de Dieu, ce n'est pas seulement le péché, mais c'est aussi le fait que nous sommes devenus des imitateurs des plans des autres. Nous sommes devenus dépendants de ce que Dieu fait avec les autres. Toute notre vie est conçue et travaillée dans ce sens-là. C'est-à-dire, à un tel âge, il faut avoir fini le lycée. À un tel âge, il faut avoir fini l'université. Il faut avoir eu son boulot. Il y a tout un système qui est basé sur un schéma que tout le monde est censé suivre. Et quand tu n'es pas dans ce schéma-là, beaucoup ne sont pas à l'aise. Et c'est ça d'ailleurs l'origine qui fait l'origine des sectes. Parce que dans les sectes, il y a un schéma qui est placé. Tout le monde doit passer par ce schéma-là. On ne laisse pas la liberté au Saint-Esprit. Dans les sectes, donc, il y a un système qui est placé et tout le monde est obligé de passer par ce système-là. Et quand je dis secte, il ne faut pas croire que c'est toujours des petits groupes. Hein. Je peux vous dire que le plus grand mouvement religieux actuel donc, est une secte. Donc, parce qu'une secte, c'est aussi un mouvement qui sort de la vérité. Voilà. Et dans les sectes, donc, il y a des systèmes où les gens
sont encadrés d'une manière stéréotypée, comme on dit. Donc, on oblige tout le monde à passer par le même moule. C'est ça l'œuvre des sectes.
Dieu, qui est un Dieu de gloire, veut que son peuple revienne à la gloire. Vous savez, il y a un homme qui pensait être vraiment dans le plan de Dieu à 100%. Il s'appelait Job. Cet homme-là était tellement réglo, tellement régulier, tellement sérieux, qu'il priait même pour le pardon des péchés de ses enfants. Il était très sérieux. Donc, il ne se reprochait rien. Effectivement, même Dieu disait que c'était injuste et qu'on n'en trouve pas un autre sur la terre. Mais lorsqu'on lit l'histoire de Job, on se rend compte que même lui s'est fait avoir par le système. Donc, il a cru qu'en faisant le bien, c'est là qu'on attire le bien venant de Dieu. Il n'a pas su accepter la nouveauté que Dieu voulait lui apporter. C'était la grâce. Quand Dieu te fait le bien, c'est par grâce. Donc, ce n'est pas à cause des œuvres. Cette nouveauté-là a échappé même à Job. C'est pour dire que peut-être tu vas croire que la prédication c'est pour quelqu'un d'autre. Non, la prédication c'est pour nous tous. Attention à regarder aux autres. Attention à vouloir copier. Attention à dépendre de ce que Dieu fait avec les autres. Chacun a un destin personnel. Et donc ce livre d'Apocalypse nous dit dans Apocalypse 2:17 que on a donné au vainqueur un caillou blanc et sur ce caillou blanc, il y avait un nouveau nom que seule la personne à qui appartenait le caillou pouvait reconnaître. Donc chacun, au fond de son cœur, cela veut dire que chacun doit reconnaître son destin du fond de son cœur. Ton destin ne peut pas être stéréotypé, ne peut pas être affiché quelque part pour que tout le monde suive. Non, ce n'est pas ton destin. Ton destin à toi, avec Dieu, Dieu te le fera connaître à toi, clairement. Et c'est personnel. Et aujourd'hui, beaucoup refusent d'entrer dans leur destin personnel parce qu'on entend trop ce que les gens disent à gauche, à droite. On attend ce que les beaux-parents disent, on attend ce que les parents disent, on attend ce que les chrétiens disent dans les églises, mais on entend tout sauf la personne qui nous a sauvés, qui nous a tracé un plan. C'est Dieu lui-même. Et les gens ont du mal à rester seuls avec Dieu. Ils veulent à tout prix une ambiance collective, donc comme des moutons. Ce n'est pas mauvais, parce que Dieu nous a fait de nous ses enfants, et en étant enfant de Dieu, c'est normal qu'on se réunisse avec les autres enfants de Dieu pour vivre ce qu'on appelle la communion fraternelle. C'est normal, mais nos destins sont personnels et individuels. Et beaucoup se sont fait piéger. Moi, le premier, autrefois, on s'était fait piéger parce qu'on voulait être comme tout le monde. Et c'est ça même qui est la production, la source des sectes, la source des doctrines figées qui prennent la place de Dieu, c'est lorsqu'on veut que tout le monde soit pareil. Il faut que tout le monde, quand il est converti, parle en langue. Il faut que tout le monde, dans certains lieux, quand il est converti, il faut qu'on prie pour sa délivrance. Il faut donc, on s'impose des choses parce qu'on veut que tout le monde soit pareil. Mais Dieu n'a jamais dit ça. Donc Dieu a un dessein personnel pour chacun. Et quand on lit la Bible, on le voit. Lui-même, il le dit. Il donnera un nom nouveau. Et ce nom-là, c'est chacun qui le connaît. C'est celui qui porte le nom qui le connaît. Nous voyons dans plusieurs passages de la Bible, Dieu dit, « Je te connais par ton nom. » Il ne dit pas, « Je te connais dans la foule, donc dans un nom de foule. Je te connais par ton nom. » Donc, tu as un dessein personnel avec Dieu. Et cet homme-là était né aveugle. Et dans le milieu juif, quand tu es né aveugle, on considère que tu as péché, tu as fait, ou tes grands-parents ont péché, ou tes parents ont un péché, et c'est pourquoi tu es né avec cette infirmité. Et on demande à Jésus, puisque c'est ça qui est régulier, c'est ça qui est courant, bon, quand on est infirme, on a un péché, on demande à Jésus, mais cet homme qui est infirme, qu'est-ce qu'il a fait? Aveugle-né. Est-ce que ce sont ses parents qui ont péché ou ce sont ses grands-parents? Jésus dit, ni ses grands-parents, ça n'a rien à voir avec ses grands-parents, ni avec ses parents, c'est à voir avec Dieu. Dieu a un plan pour chacun. Jésus n'a pas voulu dire que forcément que ses grands-parents, ses parents n'avaient jamais péché. Il n'a pas. C'est pas ça qu'il a voulu dire. Il a voulu dire, tirez votre attention plutôt vers Dieu au lieu de les tirer vers les malédictions, vers les péchés commis par les grands-parents, les parents. Considérez que Dieu contrôle l'humanité entière, Dieu contrôle tout. Donc s'il a permis qu'il naisse aveugle, c'est que Dieu veut se glorifier dans cela. C'est pourquoi j'ai dit un destin personnel et glorieux. Donc Dieu, la Bible dit, a un plan de paix et de bonheur pour chaque homme. La Bible dit, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et arrivent à la connaissance de la vérité. 1 Timothée 2, 4. Jean 3, 16 dit, Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Et quand je dis la vie éternelle, ce n'est pas un ticket pour le ciel. La vie éternelle commence déjà sur la terre. C'est une vie, c'est une puissance qui commence à produire ses effets sur la terre et qui nous amène dans l'éternité. C'est ça la vie éternelle. Et Jésus dit, il est venu se sacrifier pour qu'on ait la vie éternelle, pour que tout homme qui va croire, tout homme. Donc forcément, l'état de tout homme est un état connu de Dieu et voulu de Dieu pour manifester sa gloire. Jésus a dit, ne vous intéressez pas trop au péché de ses parents, ni au péché de ses grands-parents. Intéressez-vous plus à la volonté de Dieu, plus au plan de Dieu. Est-ce que je veux dire que les péchés des grands-parents et des parents n'ont aucun effet sur les enfants? Je ne dis pas cela. Je dis simplement que dans toute affaire, il y a des priorités. La priorité, c'est Dieu et son plan. Et ensuite, on peut voir les autres choses s'il faut les éliminer d'une manière ou d'une autre. Mais la priorité, c'est Dieu. C'est son plan. Dieu a un destin personnel, a un plan individuel pour chacun d'entre nous. Et là, les gens ont voulu assimiler cet aveugle à tous les autres cas. Jésus a dit non, ce n'est pas pareil. Là, c'est tout simplement parce que Dieu veut manifester sa gloire. Et on a vu cela. Dieu, Jésus-Christ, a mis de la boue dans les yeux de cet homme, au lieu que son cas devienne pire. Mais non, Dieu est tout-puissant, il a vu. Et je crois que beaucoup qui auraient vu Jésus mettre la boue, mais auraient critiqué en disant, mais il veut encore tuer, il est déjà aveugle, il veut encore tuer ses yeux. Donc parce que on a des schémas, et quand nos schémas ne sont pas respectés, on n'est plus à l'aise. Mais si c'est Dieu qui ne veut pas respecter les schémas, soyons toujours à l'aise. Si c'est un homme qui veut faire par lui-même, là d'accord. Mais on ne peut pas contester celui qui a mis la parole dans la Bible. Donc si lui ne veut pas respecter les schémas, pourquoi? Qui va contester avec lui? Donc lui, il a décidé de mettre la boue et il n'a pas respecté les schémas de guérison. Mais cet homme-là a vu. Voilà la réalité. un destin personnel. Et cet homme-là, quand il a vu, quelle joie pour ses parents. Parce qu'on n'a pas lu tous les textes. Quelle joie pour ses parents, mais aussi quelle déstabilisation pour les chefs religieux. Les gens habitués au schéma, ils étaient en colère. Comment a-t-il pu voir ? Ils étaient en colère parce que Jésus était venu bouleverser leur schéma. Ils étaient en colère parce que la preuve était donnée que Jésus était le Messie. Parce que dans la littérature juive, le Messie devait être celui qui, le seul capable de guérir les lépreux, de guérir les aveugles de naissance et de guérir les sourds-muets. C'était le seul qui pouvait faire ça. Et Jésus-Christ, en guérissant cet aveugle né de naissance, démontrait qu'il était le Messie. Et ces gens-là étaient gênés de réaliser cela. Alors ils étaient en colère. Et je peux vous dire que ton destin personnel va mettre en colère les gens habitués au schéma. Ça va mettre en colère ta famille. Ça va mettre en colère ton entourage. Parce que les gens ne comprennent pas. Tu vas te lever un jour, tu commences une œuvre alors que tu viens d'être converti 2 ans. Donc, si ton pasteur est habitué au schéma, ça va les mettre en colère. Voilà. Donc, tous ceux qui sont habitués à des schémas, ils sont déstabilisés. Ils vont dire, mais d'où est-ce qu'il vient? Mais c'est Jésus, le fils de Joseph. Depuis quand il est devenu fils de Dieu? Ils étaient habitués à des schémas. Donc, il fallait peut-être que Jésus naisse dans le temple et qu'il soit élevé comme Samuel a été élevé. Et là, on allait peut-être croire que ce soit lui le fils de Dieu. Mais non, il est né dans une étable. Quel est ce roi qui est né dans une étable? Et Jésus enfonce le clou. Quand il entre dans Jérusalem, il entre assis sur un âne. Quel est ce roi qui entre assis sur un âne? Il ne respecte pas le schéma parce qu'il avait un destin personnel. C'était écrit dans Zacharie 9:9. Jérusalem, sois dans la joie. Voici ton roi. Il vient simplement assis sur le fils d'un âne. C'était écrit, c'était le destin de Jésus. Il devait entrer dans Jérusalem assis sur un âne. Même s'il était le roi des rois, comme c'était écrit, lui il a respecté son destin personnel à lui. Même si ça devait gêner les gens. À un moment, Jésus a dit, je vais mourir à la croix. Je vais être crucifié. Je vais être maltraité. L'apôtre Pierre a dit, non, c'est pas possible. C'est pas logique. Jésus a dit, arrière de moi, Satan. Voilà. Le plan de Dieu pour toi va gêner même les gens les plus proches. Parce qu'ils peuvent pas comprendre. Le caillou qu'on t'a donné, tu es le seul à l'avoir. Donc, on a lu dans Apocalypse 2:17. Souvenons-nous de ce verset-là. Le caillou que Dieu te donne, tu es le seul à l'avoir. Le nom que Dieu te donne, le plan pour toi, de Dieu pour toi, même si Dieu peut donner certaines lignes à d'autres personnes, mais le contenu total, tu seras le seul à le connaître. Et arrivé dans certaines étapes, même les plus proches ne vont pas comprendre le plan de Dieu pour toi. Les gens voudraient que tu te maries à tel âge. Et quand l'âge est dépassé, on t'appelle vieille fille ou vieux garçon. Parce que c'est leur système. Je me souviens un jour, j'ai prié pour ma soeur parce que j'estimais que l'âge avançait pour qu'elle se marie. Le Seigneur m'a dit, mais qui t'a dit qu'il fallait obligatoirement se marier avant 35 ans? C'est écrit où? Qui a imposé ces schémas-là? Ce sont les humains. Et je me suis calmé. Je me suis calmé, bien-aimé. On fonctionne tous inconsciemment selon des schémas imposés par notre culture, par notre société, selon des schémas imposés par nos églises, par des chrétiens. Donc il y a des schémas et finalement, on n'écoute plus Dieu. Mais on fonctionne en fonction de ces schémas-là. Et quand notre vie ne ressemble pas au schéma imposé par les autres, on se rebelle contre Dieu. On dit, Seigneur, mais comment tu me fais ceci? Comment tu me fais cela? Non, bien-aimé, ton destin est personnel. Va plutôt vers Dieu. Dis au Seigneur, Seigneur, quel est ton plan pour moi? Ose lui poser cette question-là. Quel est ton plan pour moi? C'est ce que je veux savoir. C'est ce que je veux connaître. On ne va pas tous se convertir de la même manière. Il y en a qui veulent se convertir comme l'autre s'est converti. Mais c'est trop tard, tu es déjà converti. C'est trop tard. Il y en a quand ils apprennent que, il y a, quand on écoute les témoignages, j'étais un grand voleur, je me suis converti. J'étais un grand débauché, je me suis converti. Et il y en a qui veulent devenir débauchés pour se convertir encore bien. Mais tu risques de prendre un aller simple, sans retour. Tu entres dans la débauche, toi tu ne vas pas revenir, l'autre était revenu, toi tu ne vas pas revenir. Bien-aimé. Et on se plaint, pourquoi? Chacun a sa destinée. Et il y en a qui pensent que pour expliquer les choses concernant le satanisme et la sorcellerie, il faut avoir été sorcier. Oh, mais Dieu connaît tout. Donc Dieu n'a pas besoin de te rendre sorcier pour t'expliquer ce que font les sorciers. Puisque lui, il connaît ce qu'ils font. C'est pourquoi beaucoup se font avoir quand on entend ce pasteur-là, il était sorcier avant. Alors tout le monde va vers lui. C'est lui qui va nous expliquer les choses, bien aimé. Et beaucoup d'escrocs s'enrichissent comme ça. J'étais voleur avant. J'étais sorcier, j'étais sataniste. Alors comme les gens aiment ça, ils se disent, bon non, bon comme il était avant, donc sûrement il connaît mieux le mal. C'est faux, bien aimé. Le Saint-Esprit connaît tout ça. Paul n'était pas marié, mais c'est l'apôtre qui a le plus parlé du mariage, qui a donné de bonnes explications sur le mariage. De fond en comble, mais il n'était pas marié. Parce que c'est le Saint-Esprit qui révèle ces choses. Ça, c'est le schéma des humains. On pense que puisque il n'est pas marié, ce n'est pas à lui de nous expliquer le mariage. Non, c'est le Saint-Esprit qui explique. Il est serviteur de Dieu. Il reçoit la parole venant de Dieu. Dieu connaît le mariage. Donc, les schémas humains vont nous détruire. Et on veut à tout prix se convertir comme les autres. Non, chacun a se convertir en sa manière. Donc, aimons la manière dont on s'est converti. Aimons-la, parce que si on ne l'aime pas, on est en train de tuer le plan de Dieu sur notre vie. Aimons la manière dont on s'est converti. Si tu as été toujours dans une famille chrétienne et tu n'as pas eu le temps de faire des bêtises et tu t'es converti, que Dieu soit béni. Bénis le Seigneur d'en avoir pas goûté au mal, parce que tu ne sais pas si tu serais revenu. Bénis le Seigneur, parce que beaucoup ont goûté au mal et ils n'en sont pas revenus. Bénis le Seigneur. Si autrefois, ben, tu étais dans le mal et que tu t'es converti après, bénis le Seigneur pour ta conversion. Ne cherche pas à polémiquer, mais pourquoi je suis né dans une famille sataniste? Non, d'accord, tu es né dans une famille sataniste, mais Dieu montre sa gloire de ce qu'il convertit quelqu'un dans une famille sataniste. Voilà. Donc à travers toi, la gloire de Dieu est manifestée. Donc Jésus a dit, il fallait que cet homme soit aveugle pour que la gloire de Dieu se manifeste. Donc il fallait que tu sois ce que tu es pour que la gloire de Dieu se manifeste. Dans ton cas, il fallait que ça passe ainsi. Ne cherche pas à ce que ça passe comme pour tous les autres. Il fallait que tu naisses dans une famille chrétienne pour que la gloire de Dieu se manifeste. Ça c'est Dieu qui a prévu un plan pour chacun. Si on le respecte, on entre dans la gloire. Si on ne le respecte pas, si on le déteste, si on le critique, on ne peut pas entrer dans la gloire. On va chercher à tout faire comme les autres et ça ne marchera pas. Donc, c'est le premier point en ce qui concerne la conversion. Acceptons la conversion telle qu'elle vient. Nous pouvons lire dans Luc 19, 1 à 10, une conversion. Et nous lirons encore une autre conversion dans Luc 5, Luc 19. La Bible dit, Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Amen. Voilà un témoignage de conversion. Nous lisons dans Luc 5, La Bible dit, comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques, qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent, ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point. » Désormais, tu seras pêcheur d'hommes. Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Amen. Une autre conversion, Actes des Apôtres, chapitre 9. Donc la conversion que tous les chrétiens connaissent. Cette histoire que nous connaissons tous, Actes des Apôtres, chapitre 9. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples de Jésus, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amène liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville. » Et on te dira ce que tu dois faire. Amen. Nous voyons trois conversions différentes. La conversion de Zachée, c'est la conversion d'un riche. C'est quelqu'un qui avait beaucoup d'argent, mais qui était aussi malhonnête. Et Jésus-Christ l'aborde avec douceur. Il lui dit tout simplement, « Ben, je vais aller manger chez toi. » Il y a quand même le miracle que Jésus connaisse son nom. D'accord ? Mais ce n'est pas un miracle très extraordinaire parce qu'on pouvait toujours dire que Jésus s'est renseigné parce que c'était un homme quand même célèbre. Mais c'est en douceur. Jésus entre dans la maison, Jésus ne prêche même pas. Il ne dit rien du tout. Et cet homme-là prend la décision d'arrêter le péché et de restituer les biens qu'il avait volés. Et nous voyons l'apôtre Pierre qui vit un miracle extraordinaire. Ils ont pêché toute la nuit, ils n'ont pas eu de poisson. Et Jésus fait le miracle. Ils ont une quantité de poissons qu'ils ne pouvaient même plus, à tel point que leur barque allait chavirer. Touché par ce miracle, Pierre dit, « Seigneur, ce n'est pas possible. Tu es quelqu'un d'étrange. Tu es un envoyé de Dieu. » Et la Bible dit, « Ils ont tout laissé. » Et ils ont suivi Jésus. Et Jésus dit à Pierre, « Je ferai de toi un pêcheur d'hommes. » Conversion différente. Dans leur métier, Jésus fait un miracle. Dans leur métier à eux. Donc Jésus convertit les gens selon la porte qui s'ouvre pour cette conversion. Ça ne sera pas toujours la même chose. Il a profité du métier de Pierre pour se révéler à lui comme étant le Dieu créateur. Et Pierre s'est converti.
Il a profité du tourment de Zachée. Zachée était sûrement tourmenté pour qu'en douceur, il se révèle à lui comme le Dieu d'amour. Zachée devait être sûrement être tourmenté par le fait qu'il était mauvais. Et voir que le Dieu d'amour vient chez lui, l'a déstabilisé. Il s'est dit non, c'est un tel Dieu que je vais suivre. Il est tellement bon. Il dit, Seigneur, aujourd'hui je me repens, je change de vie. Zachée n'a pas dit, fais-moi un miracle, Seigneur, comme Pierre pour que je me convertisse. Non. Il a accepté Jésus tel qu'il venait. Et toi non plus, ne cherche pas que Dieu t'impressionne pour que tu te convertisses. Accepte Dieu tel qu'il vient à toi, aussi simplement qu'il vient. Mais parce que malgré sa simplicité, Dieu montre qu'il est tout puissant. Sinon tu ne serais pas dans ce lieu. Dieu t'a amené dans ce lieu. C'est ça la puissance de Dieu. Il t'a amené pour écouter sa parole. C'est qu'il est très puissant. Pour t'influencer, pour te pousser à t'approcher de la Bible, il est tout puissant. Accepte Dieu dans sa simplicité. Ne te complique pas la tâche. Et nous voyons la conversion de Paul. Paul, c'est un homme qui emprisonnait les chrétiens, qui faisait du mal aux chrétiens. Et Jésus lui apparaît comme le Seigneur glorieux. Une grande lumière fait tomber Paul. Et Paul se convertit. Bien-aimé, la Bible dit ceci, quand tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Ne cherche pas à copier les autres pour vraiment réaliser que Dieu est Dieu et te soumettre à lui. Accepte Dieu tel qu'il se révèle à toi. C'est ça que Dieu demande. Un autre point, c'est par rapport au service de Dieu. Nous n'allons pas tous travailler de la même manière. Nous n'avons pas tous la même mission. Nous n'avons pas tous les mêmes rôles. Moi qui suis chrétien depuis longtemps, j'ai vécu toutes sortes de modes. Il fut un temps où la mode, c'était le parler en langue. Et ça a été dépassé. Il fut un temps où la mode, c'était les paroles de connaissance. C'était devenu un peu comme de la magie. Et ça a été dépassé. Il fut un temps où la mode, c'était les guérisons miracles. Et ça a été dépassé. Il fut un temps où la mode, c'était l'enseignement. Le temps de docteur du Kansas aux États-Unis, c'était l'enseignement, enseignement, enseignement. La mode est passée. Il y a une seule réalité qui ne passe jamais. C'est Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Et sa parole est la parole de la vérité. La Bible est la parole de Dieu. Ça ne passe pas. Mais toutes les modes passent. Et viendra un temps où tu seras influencé à vouloir être comme tout le monde. Si la mode, c'est que les gens tombent quand on prie pour eux, tu voudras aussi que les gens tombent quand tu pries pour eux. Et qu'est-ce qu'on a constaté? Puisque certains ne tombent pas, on les pousse. Et il y en a qui, malgré le fait qu'on les pousse, ils ne tombent pas quand même toujours. Ils ont fait un peu de sport avant. Donc, bien-aimé, c'est parce qu'on veut à tout prix sacrifier à la mode. On veut être comme tout le monde. On veut vivre les mêmes choses comme tout le monde. Bien-aimé, le ministère est personnel. On va lire dans 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12. À partir du verset 4. La Bible dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Donc, il y a diversité d'opérations, mais c'est le même Esprit. Diversité de ministères, de dons. On n'est pas obligé tous de faire la même chose. C'est le secte après qui oblige les gens à faire tous la même chose. C'est la religion qui fait cela. Et c'est ce qu'on voit dans beaucoup de grands groupes chrétiens où il y a un règlement d'ordre intérieur. Le pasteur ne doit jamais sortir de ce règlement-là. Et donc il faut qu'il soit au pas. Mais quand Dieu, lui, change la façon de faire, mais on va faire comment? On va dire Dieu, on ne veut pas. Mais non, bien-aimé. Dieu fait ce qu'il veut. Et il y a aussi des temps. On ne peut pas à tout moment prêcher la même chose. La même chose. Il faut recevoir le feu. Oui, mais non, il y a un temps aussi où on doit prêcher le fait qu'il faut se préparer pour le retour du Seigneur. Il y a un temps où on doit prêcher le fait qu'on doit s'abstenir du péché. Il y a un temps où on doit prêcher le fait qu'on doit aimer la parole. Donc tout est nécessaire pour l'évolution du corps du Christ. Donc on ne peut pas bloquer le schéma de Dieu dans un schéma humain. Il y a diversité de ministères, mais c'est le même esprit. Chacun doit chercher sa voie avec Dieu. Il ne doit pas chercher à copier ceux qui ont réussi. Voilà le piège de beaucoup de ministères. Ils veulent copier ceux qui ont, entre guillemets, réussi. Et souvent on voit cela, un livre écrit par quelqu'un qui a une église de 10 000 membres, comment diriger une église? Alors tout le monde vient rapidement. Non, comment faire pour que l'église croisse? Tout le monde vient rapidement lire parce que tout le monde veut diriger une église de 10 000 membres. Est-ce que Dieu t'a dit que toi tu as la capacité de diriger une église de 10 000 membres? Est-ce que tu as la capacité? Bien-aimé, est-ce que vous vous imaginez 10 000 personnes? C'est un stade, hein? Donc comment vous allez faire l'accueil, la sonorisation? Mais c'est une organisation, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc il ne faut pas chercher à imiter pour imiter. Peut-être Dieu t'a demandé, toi, de diriger une église de 30 personnes. Mais peut-être 30 personnes qui changent. Quand elles sont formées, elles vont ailleurs et elles font d'autres assemblées. Mais toi, tu tournes avec environ 30 personnes. Ça, c'est. Il faut chercher sa voie avec Dieu. Il ne faut pas chercher à aller là où ça brille. Il y a un proverbe du monde qui dit « Tout ce qui brille n'est pas de l'or. » Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Il y a des chrétiens qui cherchent là où ça brille. Ils ne cherchent pas là où est Jésus. Mais ils cherchent là où ça brille. Et ils ne savent pas. Bien-aimés, il y a beaucoup de pasteurs qui se font chapeauter par d'autres qui ont entre guillemets, réussi. Donc parce qu'il a pu avoir 5000 membres, 10000 membres, parce qu'il est connu mondialement, ben je me fais chapeauter par lui. Qui te dit que c'est lui la voie de la réussite? La Bible dit que c'est Jésus-Christ qui est la voie de la réussite. C'est lui le centre de tout et la source de tout. Bien-aimé, sois toi-même. Sois toi-même. Ne cherche pas à être comme les autres, à faire comme les autres, avoir le même ministère que les autres. Le ministère, ça ne se crée pas. C'est Dieu qui les donne. Ce sont des dons. Un don, c'est quelque chose qu'on te donne. Tu ne peux pas produire ça. Même si tu fais une école biblique, tu ne peux pas devenir pasteur par toi-même. Pasteur, c'est un don qui vient du ciel. Maurice Ray, eh bien, il a été 3 ans pasteur. 3 ans. Et ça ne marchait pas. 3 ans pasteur. Bien sûr, après avoir fait l'école de théologie. Hein. Et ça ne marchait pas. Et un jour, il appelle un pasteur aîné et lui demande, il lui pose des questions. Mais pourquoi ça ne marche pas, le ministère? Le pasteur aîné crée une rencontre et ils discutent. Et quand ils discutent, le pasteur aîné lui dit, mais je comprends ton problème, tu n'es pas converti, tu n'es pas chrétien. Il dit, quoi? Moi qui suis pasteur, je ne suis pas chrétien. Ben oui, tu n'es pas chrétien. Voilà pourquoi je t'ai dit que tu n'es pas chrétien, il y a ça, 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 ça. Il dit, mais tu as raison, je veux devenir maintenant chrétien. Il dit, d'accord, on va prier. Et quand ils ont prié, il est devenu chrétien. Le soir, quand il est rentré chez lui, il ouvre la Bible, premier verset, Éphésiens 4, 11. C'est moi qui ai donné certains comme apôtres, comme prophète, comme pasteur, comme évangéliste. C'est en ce moment-là qu'il reçoit son appel. Bien, mais quand ça vient du ciel, quand ça vient d'en haut, on ne force rien. Le feu a commencé dans son ministère. Il va à Bruxelles, il fait campagne d'évangélisation devant la gare. Un paralytique, il était là, il dit, tu te lèves au nom de Jésus, il se lève et il marche. Parce que c'est Dieu qui venait de l'appeler. La Bible dit, toute grâce excellente et tout don parfait vient du Père des Lumières, en qui il n'y a point de changement, ni nombre de variations. Ça vient de Dieu, Jacques 1, 17. Toute grâce excellente et tout don parfait viennent de Dieu. Ce n'est pas aller chercher ça d'église en église, d'imposition des mains en imposition des mains. Tu peux te retrouver là où les gens tombent. Tu tombes aussi, mais c'est un démon qui te possède. Mais c'est la vérité. Hein? Beaucoup se sont fait posséder comme ça parce qu'ils se sont laissés imposer des mains par n'importe qui, parce que la personne semblait dégager une puissance. Toute puissance ne vient pas de Dieu. Par contre, Dieu est tout puissant. Et étant tout puissant, il est capable de te donner ce qu'il a prévu pour toi. Pourquoi t'inquiéter? Ce n'est pas normal. Les gens qui s'inquiètent pour leur ministère et qui vont à gauche, à droite chercher la solution pour leur ministère, ce n'est pas normal. Ça voudrait dire que Dieu, dans sa toute puissance, est incapable de te donner ce qu'il a prévu pour que tu fonctionnes. Non, c'est que tu veux tricher les autres. Tu veux être comme tous les autres. Tu veux te comparer aux autres et tu vas perdre ton temps de poste en poste, de lieu en lieu. Tu veux plaire à ta famille. Tu veux faire un ministère qui plaise à ta mère. Tu veux faire un ministère qui plaise à tes cousins. Tu iras de porte en porte. Reste dans Dieu. Cherche Dieu. On ne veut plus être seul. Nous vivons une époque où les gens sont seuls pour tout ce qui concerne leur argent. Donc, côté égoïsme, ils sont bien seuls. Mais pour tout ce qui concerne leur vie, ils veulent plus être seuls. Club Med, camping, tel endroit. Ils ne veulent plus passer les vacances en train de labourer, en train d'arranger la maison. Non, 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 non. Il faut toujours qu'il y ait du monde. Club de célibataires, club de... Et même des chrétiens font ça. Des clubs de célibataires, des clubs de rencontres. Non, ce n'est pas de Dieu tout ça. Si Dieu a prévu une femme pour toi, il va te la donner. Tu n'as pas besoin de forcer la main à Dieu. Ça voudrait dire que Dieu est impuissant de te donner la femme qu'il a prévue. Donc Satan est plus puissant pour Dieu que Dieu pour t'empêcher. Non, c'est faux. C'est qu'on veut copier les autres. Là, je parle en même temps des bénédictions. Dans les bénédictions, ne cherchons pas à copier les autres. C'est là que viennent les jalousies. Que ce soit ministère ou bénédiction. Je me souviens quand je m'étais marié, on avait du mal à avoir le premier enfant. Et on a prié. Et puis un jour, je me retrouve dans le métro. Je vois des gens qui avaient des bébés. Mais tu sentais même qu'ils étaient pas, c'était des pécheurs, c'était des gens qui n'étaient pas en règle avec Dieu. Il y en a même c'était des grossesses non désirées. Ben je me dis, mais attends, s'il y a des gens qui ont des grossesses non désirées, ils ont des enfants, est-ce que c'est moi qui désire, qui vais en manquer quand même? Soyons sérieux. J'ai dit, mais non, Seigneur, bon, ça y est, je me calme. C'est clair, bien-aimé. Tu regardes, tu te dis, mais Dieu est tout puissant. S'il y en a même qui ne veulent pas d'enfants, ils en ont. Est-ce que c'est moi qui viens en manquer? Non. Il y a quelque chose que je dois chercher, c'est quoi? C'est qui? C'est Dieu. Je dois accepter d'être seul à seul avec lui, lui poser mon problème. Il ne faut pas que je cherche à être, qu'on me mette la pommade par l'ambiance des églises. Tu auras ton enfant. Parfois, Dieu dit non, c'est faux. Pendant que le pasteur dit tu auras ton enfant, Dieu répond par le Saint-Esprit, c'est faux. J'ai rencontré quelqu'un, il a écouté la prédication convoitise et mécanisme sectaire, dans laquelle on expliquait que c'est notre convoitise qui attire même les fausses prophéties. Quand tu as une convoitise, ça peut créer même des fausses prophéties, puisque tu as tellement une convoitise. Et cette personne me dit, pasteur, ça fait 5 ans que je souffre, cette prédication-là m'a libéré. Pourquoi? Parce que j'attends de concevoir un enfant depuis 5 ans. Et j'ai eu des prophéties tous les ans. Que c'est cette année
Il dit, mais pasteur, même des gens qui ne me connaissaient pas, je pouvais comprendre que ce soit les gens qui me connaissent qui se trompent. Mais même des gens qui ne me connaissent pas. Mais quand j'ai écouté dans la prédication que la convoitise peut attirer même des fausses prophéties, effectivement, donc il suffit que tu sois en face d'un serviteur qui n'est pas averti, qui ne sait pas se contrôler, Satan peut rapidement le manipuler et lui donner une fausse prophétie pour toujours t'amener à toi à dégoûter de Dieu. Parce que vous vous imaginez quelqu'un à qui on prophétise par des serviteurs de Dieu, par des chrétiens, chaque année qu'elle aura un enfant. Vous vous imaginez à peu près 4 ans, qu'est-ce qu'elle dit? Dieu ment. Ou alors, Dieu est faible, il n'est pas capable. Il dit, mais il ne peut pas. Vous voyez le but du diable? Chaque année, on te prophétise la même chose. Finalement, ça n'arrive pas. Tu te dis quoi? Mais Dieu ment. Parce que tu n'as pas cherché à la bonne porte, tu risques de te faire avoir. Et quand elle a écouté la prédication, elle a dit, je comprends que c'est ma convoitise. Elle m'a dit, même un jour, j'ai donné $500 d'offrande. Vous savez, $500 en Afrique, hein? Dans des pays difficiles. $500 d'offrande. Des gens qu'en France, ici, ce n'est pas donné de faire ça. Alors, elle met $500 d'offrande, croyant obliger Dieu. Donc, ainsi, par ce sacrifice-là, à lui donner l'enfant qu'elle attend. Mais malgré les $500, ben, je ne sais pas dans quelle poche c'est parti, mais elle n'a pas eu l'enfant, bien-aimée. Parce que Dieu, on ne peut pas lui imposer les choses. Sinon, il te les donne, mais lui n'est pas dedans et tu vas souffrir. C'est ça, bien-aimé. C'est notre convoitise qui fait que on regarde aux autres. On regarde aux bénédictions des autres. Bien-aimé, quand tu vois l'autre avoir une voiture neuve, dis-toi, mais Seigneur, si tu lui donnes une voiture neuve, tu démontres ainsi ta puissance que tu peux me bénir aussi d'une voiture neuve. Mais si tu regardes la voiture neuve de l'autre, tu te dis, mais moi, ça fait longtemps que j'ai pris, on ne me donne pas. Tu entres dans la colère, dans la rébellion. Pourquoi pour moi c'est difficile, pour les autres c'est facile? Alors que tu devrais utiliser la bénédiction de l'autre pour dire, mais si Dieu a donné à mon frère, je suis son frère, on a tous le même père. Donc, pourquoi pas moi? Voilà, pour moi, c'est un encouragement. Comme il a une voiture neuve, moi j'en aurai aussi bientôt. Voilà. Puisque vous avez le même père. Mais quand on est assoiffé, on est dans la convoitise, on cherche à tout prix à épater, on cherche à tout prix à être comme les autres, on ne veut pas se contenter de ce qu'on a, eh bien, qu'est-ce qui se passe? On va aller à gauche, à droite. On va faire des semences, donner de l'argent pour des fausses, pour des prières que Dieu n'agrée pas. Parce qu'on veut être comme tous les autres, on veut être reconnu par les autres, accepté par les autres. Non, Dieu veut que tu marches avec lui. Seul à seul. La Bible dit, Enoch a marché avec Dieu et Dieu l'a enlevé. Voilà un passage qui m'a toujours frappé. Il a marché avec Dieu. La Bible ne dit pas qu'Enoch a fait des miracles, il a prêché. On dit seulement, Enoch a marché avec Dieu. Et Dieu a tellement été content qu'il l'a enlevé, quoi. Il est le seul avec Élie à être enlevé. Donc Dieu les a trouvés tellement purs qu'ils n'étaient pas dignes de la mort. Il a préféré les enlever. C'est cela, bien-aimé. Et Enoch était de cela. Il a marché avec Dieu. Et les chrétiens d'aujourd'hui ne veulent pas être seuls avec Dieu. Jacob, quand il a reçu sa grande bénédiction, c'était le nom d'Israël qu'on lui a donné. La Bible dit, Jacob se retrouva seul. Et quand il s'est retrouvé seul, il a eu à se battre avec un ange, avec un homme, jusqu'au matin. C'est en étant seul qu'il a reçu ce que Dieu avait prévu pour lui. Abraham, quand il a voulu sacrifier Isaac, est-ce qu'il y avait ses serviteurs? Est-ce qu'il y avait sa femme? Est-ce qu'il y avait quelqu'un pour le consoler, pour le soutenir? Il n'y avait personne. Il était seul dans son cheminement avec Dieu. Et c'est là qu'il a reçu le nom du Père de la foi. Du Père, nous sommes tous de la postérité d'Abraham à cause de l'acte qu'Abraham a commis, a fait de vouloir sacrifier son fils par la foi. Et nous devenons tous ses fils. Quelle gloire Abraham a reçue. Le chemin du Seigneur, c'est le chemin qui est le plus glorieux. Même s'il peut paraître difficile, compliqué, anormal, mais c'est ce même chemin qui est glorieux. Si tu cherches à sortir de ce chemin-là par ta propre logique, par imitation aux autres, par correspondance aux autres, par fusion dans le même moule que tout le monde, tu ne connaîtras pas cette gloire-là. Tu vas tourner en rond, bien-aimé. C'est pourquoi Psaume 75 dit, l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. Ça vient du ciel. Quand tu comprends ça, tu chercheras le ciel. Tu chercheras Dieu. Et Jésus nous le dit dans Matthieu 6, 33. Cherchez d'abord le royaume des cieux et vous aurez le reste. Beaucoup cherchent à résoudre leurs problèmes parce que s'ils ne les résolvent pas, ils ne sont pas comme tous les autres. On va se moquer d'eux par la famille. On va se moquer d'eux par les autres chrétiens. On va dire, mais où est ton Dieu? Mais ce n'est pas ton problème. Toi, marche avec Dieu. S'il faut essuyer la honte à cause de Dieu, accepte-le. Beaucoup de chrétiens ne veulent pas la honte. Ils ne veulent pas qu'on leur dise, où est ton Dieu? Si ton Dieu était là, pourquoi tu souffres ainsi? Si ton Dieu était là, pourquoi tu ne te maries pas? Pourquoi tu n'as pas d'argent? Bien-aimé, Jésus a dit, celui qui aura honte de moi, moi aussi quand je viendrai avec mes anges, j'aurai honte de lui. Bien-aimé, avoir honte de Jésus, c'est quoi? C'est refuser l'état dans lequel tu es. Le refuser dans le sens à dire que être mécontent, dire Dieu se trompe en quelque sorte. Et quand les gens viennent se moquer de toi, tu as honte. Non, bien-aimé. Tu es au chômage. Ah mais oui, où est ton Dieu? Mon Dieu, il est là. Mais comment il est là, tu es au chômage? Mais l'homme ne vivra pas seulement du travail. Ça s'appelle comment? Le contrat à durée indéterminée. L'homme ne vivra pas seulement du CDI. L'homme vivra certainement du CDE. Contrat à durée éternelle. Avec Jésus-Christ, bien-aimé. Voilà. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on fait? Mais où est ton Dieu? Tu es au chômage. Seigneur, donne-moi le travail. Tu ne vois pas que les gens se moquent de moi? Oh. Mais qui t'a dit que pour qu'ils se moquent plus de toi, il faut que tu aies le travail? Tu vas voir le travail, ils vont se moquer parce que la calvitie commence. Donc ils vont toujours trouver quelque chose pour se moquer. Donc c'est la gloire de Dieu en toi qui va les faire taire. C'est tout. Ne cherchons pas à souscrire au schéma humain pour dire Seigneur, prouve-leur. Il y en a qui disent Seigneur, prouve-leur que je suis un serviteur. Il faut qu'il y ait un miracle aujourd'hui. Oh, mais qui t'a dit qu'il faut seulement un miracle pour prouver aux gens? Dieu peut convaincre dans le cœur. Dieu peut convaincre dans le cœur. Dis au Seigneur de convaincre les gens de sa parole. C'est tout. Ne cherche pas à ce que toi tu sois reconnu, je ne sais pas comment. Si tu es véritablement de Dieu, Dieu le fera reconnaître. Ne cherchons pas à imiter les autres. Fais comme les autres pour qu'on soit applaudi. Accepté. Non, bien-aimé. Soyons humbles. Apprenons le contentement et Dieu se glorifiera. Parce qu'il veut se glorifier. Notre destin est personnel, mais il est aussi glorieux. Et lorsque nous lisons Luc chapitre 8, on n'a plus le temps de tout lire. Luc chapitre 8, on voit une femme qui souffrait de perte de sang. Cela faisait 12 ans. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, dès que quelque chose dure, ils veulent à tout prix quelque chose pour critiquer Dieu. Mais elle souffrait. Cela faisait 12 ans. Et ce jour-là, Jésus passait. Elle s'est dit, je vais le toucher. Si je touche son vêtement, je serai guéri. Et la Bible dit que Jésus était entouré de beaucoup de gens. Mais quand cette femme l'a touché, Jésus a su qu'on l'avait touché. Pourtant, Jésus était touché par beaucoup de gens. Cette femme avait compris que c'était personnel. Elle n'avait pas besoin de faire la publicité. Elle cherchait Dieu dans son cœur. La Bible dit, elle se disait en elle-même. Donc il y avait un travail personnel. La Bible ne dit pas qu'elle disait aux autres. Elle se disait en elle-même, si j'arrive à toucher son vêtement, je serai guéri. Et quand elle a touché, Jésus a senti. Dieu ne sent pas beaucoup de gens parce qu'ils sont légers. Ils ne cherchent pas Dieu seul à seul. Ils cherchent Dieu dans l'ambiance collective. Il n'y a pas une vraie recherche. Ils veulent imiter les autres. Je suis en train de lire un livre. Une personne était dans le Nouvel Âge, cette fausse religion qui dit qu'on peut trouver une autre voie à travers des esprits, des médiums, tout le reste. Eh bien, elle s'est fait posséder par des esprits. Au début, ces esprits-là étaient ses amis. Quand elle leur a dit, c'est fini notre amitié, je ne veux plus de vous, je vais vivre ma vie seule. Ils ont faim d'aller et de dire au revoir. Après, ils sont revenus vite pour dire non, nous te possédons, nous sommes les chefs. On ne peut pas partir comme ça. Et c'était sa galère. Pendant plus de 4 ans, 5 ans, elle a souffert. Pendant que toi et moi, nous dormions, elle, elle devait se réveiller la nuit parce que ses esprits-là la réveillent, commencent à l'embêter. Elle ne vivait plus, elle était médecin, elle a fermé son cabinet. Et donc, bien-aimée. Et finalement, elle a rencontré le sauveur de l'humanité. Et quand elle a rencontré le sauveur de l'humanité, elle a senti en lui que ses esprits l'avaient, en elle que ses esprits avaient perdu contrôle. Mais le problème, c'est que elle pensait que le schéma de la baguette magique, ça, c'est comme ça toujours avec le Seigneur. Avec le Seigneur, ce n'est pas toujours la même chose. Et donc, elle voulait une délivrance totale, une fois pour toutes. Et la première personne vers qui Jésus l'avait amenée, c'était une personne qui connaissait la parole, qui avait prié pour elle. Elle s'était sentie libérée, mais les esprits continuaient à la déranger. Alors, elle n'a pas voulu continuer dans la logique de la parole. Elle voulait trouver le serviteur rare qui pourrait la libérer. Et elle a fait 2 ans en changeant de séminaire, de convention, d'église, pour trouver le serviteur rare qui pouvait la libérer. Et après le tour de 2 ans, elle s'est dit, il y a un problème. D'ailleurs, les serviteurs qui prient pour moi, parfois, ils emploient presque les mêmes méthodes que moi j'employais quand j'étais médium. Donc, parce qu'un jour, il y a un serviteur qui disait, allez, on va prier, certains vont avoir des visions sur Jésus, bien-aimé. Si tu entends des choses comme ça, c'est du mensonge. Dieu parle à travers sa parole. Et quand il y a des visions, c'est lui, Dieu, qui décide. Ce n'est pas nous qui allons décider qu'il nous parle par des visions. C'est lui, Dieu, qui décide. Et un faux ange est venu le voir pour lui, et la voir pour lui dire, tes tourments sont finis. 30 minutes après, ce faux ange-là a rigolé. Ah, j'étais eu, hein, je suis encore un démon, tu vas voir. On te contrôle toujours, bien-aimé. Elle est passée comme ça, d'église en église, de séminaire en séminaire. Elle s'est fatiguée. Elle est revenue vers la première personne. Ils ont parlé. La personne lui a expliqué. Tu vois, c'est la parole de Dieu qui libère. Continue à marcher selon la parole de Dieu. Continue à obéir à la parole de Dieu. On avait déjà prié pour ta délivrance. Dieu a fait ce qu'il avait fait. Et le reste, il va continuer à le faire. Il contrôle toutes choses. On peut prier pour toi. Il n'y a pas forcément, comme certains ont voulu nous faire croire, une solution immédiate. Donc, c'est Dieu qui décide, c'est Dieu qui contrôle. Voilà. Donc, il y a un élément très important, c'est que quand Jésus contrôle, c'est fini. Ça veut dire que nous sommes sur la voie de l'échec des forces des ténèbres. Ils ont déjà perdu la bataille. Mais il y a un processus. Dans ce processus-là, il y a le fruit du Saint-Esprit qui entre aussi en jeu. Dieu veut que tu entres dans la maturité, dans la sagesse, la maîtrise de soi. Ton élévation dans la nature de Dieu va chasser, va clôturer le processus pour vivre une délivrance sans faille. Et finalement, elle a compris cela. Elle a commencé à rechercher Dieu, à prier Dieu, seul à seul, à aller dans l'église, mais pour écouter la parole, pour être transformée de tout son être. Elle rejetait tout ce qui était faux. Elle rejetait tout ce qui était mauvais. Elle vivait une vie pure. Et les esprits qui l'embêtaient se sont esquivés un à un. Et elle ne les a plus entendus. Bien-aimés, c'est ça la réalité. Ne cherchons pas à compliquer les choses. Dieu est Dieu. Cherchons-le seul à seul. Prions, Seigneur, qu'attends-tu de moi? C'est très important. Ce n'est pas en allant de gauche à droite, en écoutant telle prédication sur Internet que tu seras transformé. C'est en écoutant Dieu. Et Dieu te conduira vers la personne qui doit s'occuper de toi. Dieu te conduira dans les verts pâturages. C'est pas, moi je dis toujours, ce n'est pas à un chrétien de décider qui est son berger. Il décide, puisqu'il est humain, mais dans son cœur, c'est Dieu qui va lui montrer qui est son berger. Ensuite, lui, de sa voix humaine, il peut dire, voilà maintenant mon berger. Mais en réalité, ce n'est pas à lui de décider. Et beaucoup de chrétiens ont pris les décisions eux-mêmes. Ils sont sortis du plan de Dieu. Et hors du plan de Dieu, il n'y a pas la gloire. Beaucoup de pasteurs sont sortis du plan de Dieu. Et hors du plan de Dieu, il n'y a pas la gloire. Tu peux faire tout ce que tu veux, tu vas tourner en rond. Et si Dieu t'aime, il va toujours chercher à te récupérer, quel que soit le temps. Bien-aimés, ne cherchons pas à ressembler aux autres et à faire comme les autres. Laissons Dieu nous amener où il veut. Et dans Luc 7, nous voyons Jésus-Christ qui va quelque part et on vient l'aborder par des gens envoyés par un riche romain, un centenier, qui disent à Jésus, viens guérir le serviteur de ce centenier parce que son serviteur est proche de la mort. Il souffre beaucoup. Mais quand Jésus se déplaçait pour aller guérir cet homme, son patron envoie encore des gens pour dire à Jésus, Jésus, tu n'as pas besoin de venir là où je suis pour guérir cet homme. Parce que moi je donne des commandements à mes soldats, ils m'obéissent. Toi aussi tu peux donner des commandements aux microbes, aux atomes, ils vont obéir, ils vont changer, ils vont quitter mon serviteur et mon serviteur sera guéri. Dis seulement un mot. Tout cela pour te dire quoi, bien-aimé? Tout obstacle est une marche pour la manifestation de la gloire de Dieu. C'est un tremplin pour la manifestation de la gloire de Dieu. Ne cherchons pas toujours à contourner les obstacles par la religion. Cet homme-là avait l'obstacle. Quel obstacle? C'est que Jésus étant juif, lui étant païen, normalement les juifs n'entrent pas dans les maisons des païens, n'entraient pas à l'époque dans les maisons des païens. C'était un obstacle pour lui. Il n'a pas cherché à contourner ça par la religion, soit à sortir son serviteur, à l'amener pour que Jésus impose les mains. Il s'est dit, mais non, mais finalement c'est le Dieu Tout-Puissant. S'il est Tout-Puissant, il n'a pas besoin d'être là pour guérir mon serviteur. Bien-aimé, c'est les obstacles qui nous poussent parfois à vouloir faire comme les autres. Ah, tel autre avait essayé de telle manière, ça avait marché. Tel autre avait essayé de telle manière, ça avait marché. Non. S'il y a des obstacles, alors il y a une plus grande puissance pour dépasser ces obstacles-là. Cherchons cette puissance-là dans la communion, dans la marche avec Dieu. C'est très, très important. C'est cela. Et beaucoup de gens tournent en rond à cause de cela. Et je voulais clôturer en résumant les choses ainsi. Nous avons un destin personnel. Chacun a sa voie avec Dieu. Mais beaucoup ne vivent pas la gloire de ce destin-là parce qu'ils se fatiguent avant, parce qu'ils ne cherchent pas vraiment Dieu, ils cherchent la conformité avec les autres, avec le siècle présent. Et l'apôtre Paul dit dans Romains 12, ne vous conformez pas au siècle présent, mais laissez-vous être renouvelé par l'intelligence divine. Ne vous sentez pas obligé de vivre les mêmes événements que les autres. Bien-aimés, moi j'étais habitué à voir des prédications 3 semaines, 2 semaines, 1 mois à l'avance. Mais il fut un temps, mais je n'en avais même pas 2 jours à l'avance. Et je n'ai pas dit, Seigneur, puisque je n'en ai pas eu 2 jours à l'avance, il me faut chercher mes cahiers pour prendre ce que j'ai reçu 1 mois à l'avance. Non. J'ai dit, j'irai comme ça. Si il n'y a rien, c'est qu'il y a mieux que ce que j'ai recevé à l'avance. Voilà. Puisque Dieu est tout-puissant, il peut me donner des choses 1 heure avant. Il peut me donner des choses 1 jour avant. Parce qu'il est tout-puissant. Bien-aimé, ne cherchons pas à nous conformer à une façon de faire. Mais laissons Dieu renouveler chaque jour notre intelligence. Acceptons que s'il y a des problèmes, c'est nous qui sommes dans l'erreur. Repentons-nous et disons, Seigneur, si je ne suis pas en paix, si je ne suis pas à l'aise, c'est moi qui ai un problème. Ce n'est pas toi. C'est moi qui suis le problème. Ce n'est pas toi. Je me repens. Renouvelle mon intelligence. Comme Job a dit, autrefois je t'entendais, aujourd'hui je te vois. Job, à un moment, a critiqué Dieu, il a dit non, il ne voit pas ce que Dieu lui reproche. Mais Dieu a dit, tu vas voir ce que je te reproche. Et à la fin, Dieu a réalisé, Job a réalisé qu'il était fou. On ne peut pas contester contre l'Éternel, le Dieu qui a fait le ciel et la terre. Il s'est humilié. Il a dit, j'étais fou. Je me repens, Seigneur. Forcément, c'est moi le problème. Je n'avais pas saisi que mes richesses, tout ce que j'avais avant, ce n'était pas parce que je priais tous les jours, ce n'était pas parce que je faisais les sacrifices pour mes enfants, c'était parce que tu étais bon envers moi. Je croyais être juste par moi-même. Aujourd'hui, je reconnais qu'on ne peut pas être juste par soi-même. Seul Dieu est juste. Amen. C'est ça la réalité. J'ai parlé avec une sœur qui avait du mal à vivre sa vie chrétienne. Elle se mettait en colère. Au début, elle ne se mettait pas en colère. Il fut une époque où elle a commencé à se mettre en colère envers beaucoup de gens à cause des erreurs des gens. Et elle se disait, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et un jour, Dieu a permis qu'on se rencontre. Elle m'a expliqué son problème. J'ai dit, je comprends ton problème. Tu n'es pas converti. Elle dit, comment ça je ne suis pas converti? Moi, j'ai dit, oui. Tu as été tellement, avant que tu deviennes chrétienne, tu étais presque parfait dans ton comportement. Parfait dans ton comportement. Et en devenant chrétien, tu t'es dit, mais voilà ce que je suis. Mais tu n'as pas vécu ce que les vrais chrétiens ont vécu, de réaliser qu'ils étaient pécheurs et que Jésus les sauvait. Elle a dit, mais tu as raison. C'est ça le problème. Et d'ailleurs, elle me pose la question, d'ailleurs, mais quel péché Jésus peut me reprocher? Ah, moi je lui dis, mais justement, c'est le péché d'orgueil. Et donc, je lui explique le péché dans lequel il était, elle était, l'orgueil, ainsi de suite. Elle dit, ben c'est ça, effectivement. Je me repens, je demande pardon. Et on a prié, elle était devenue une personne nouvelle. Quand j'ai vu les gens qui la connaissaient, je dis, mais elle a changé. Elle, parce qu'elle avait ce problème-là. Bien-aimé, on ne peut pas contester vis-à-vis de Dieu. S'il y a une contestation, c'est nous qui n'avons pas compris quelque chose. Dieu est Dieu. Répentons-nous et disons, Seigneur, aujourd'hui, je veux vraiment te rencontrer. Je veux te rencontrer, toi. J'ai trop erré, j'ai trop galéré. Maintenant, c'est la rencontre. Vous voyez que les conversions sont différentes, mais il y a un point commun. Le point commun, c'est la rencontre avec Jésus. Quand on rencontre Jésus, cela change. La Bible dit, Pierre a tout laissé sa richesse, sa pêche miraculeuse pour suivre Jésus. La Bible nous dit, Zachée a tout vendu pour suivre la voie du Seigneur. La Bible nous dit, Paul, lorsque Jésus lui a parlé, il a dit, tu souffriras à cause de mon nom. Paul a dit, pas de problème, Seigneur. Parce qu'il a dit à Jésus, que veux-tu que je fasse? Aujourd'hui, si tu dois retenir un mot, une phrase, c'est que veux-tu que je fasse, Seigneur? C'est ça que tu dois dire à Dieu. C'est ça la vraie conversion. Où l'homme s'humilie devant Dieu et dit, que veux-tu que je fasse? Je suis tout entier à toi. C'est ça la vraie conversion. Et deuxième élément après la conversion, après la rencontre avec Jésus, c'est la soumission. On se soumet. On accepte de suivre Jésus et non pas de le prendre à la main, de le tirer. Viens, viens me donner la bénédiction. Viens me soutenir dans le ministère. Non, c'est à toi de suivre Jésus. Dans son ministère à lui, tu n'es qu'un instrument. Nous ne sommes que des instruments. Bien-aimé, quand je parle aux gens au téléphone, je dis, il y a des gens qui sont paniqués parfois. Pasteur, bon, on se voit mercredi parce que là, ça chauffe. Je dis, non, d'abord calme. Là, tu paniques, c'est comme si moi, je vais résoudre ton problème. Moi, je ne suis qu'un instrument. Prie d'abord Dieu. Si Dieu décide que ce soit le mercredi qu'on se voit pour la prière, là, d'accord. Il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas moi qui vais résoudre ton problème. Je ne suis qu'un instrument. Nous ne sommes que des instruments. C'est à nous de suivre le maître. Celui qui a, c'est à lui de nous utiliser. Ce n'est pas à nous de le tirer. Allez, on veut que l'église se remplisse. Allez. Non, bien-aimé. C'est à nous de le suivre dans ses idées à lui. C'est ça la réalité, bien-aimé. La soumission. Entrer dans le plan de Dieu. Suivre le maître. Et, bien-aimé, quand on est dans le plan de Dieu, les trésors qui est en nous, 2 Corinthiens 4, 7, la Bible dit, nous portons ce trésor dans des vases d'argile. Ce trésor-là qui est Jésus, que tout véritable chrétien a. Mais ce Jésus-là n'opère pas dans tous les chrétiens, parce qu'on lui a bloqué le chemin de sortie pour la gloire. Parce que beaucoup ne sont pas dans son plan, dans sa volonté. Alors quand tu entres dans le plan de Dieu, tu chemines avec lui, il y a des ouvertures qui se font en toi. Le trésor que tu as, la gloire qui est en toi, va commencer maintenant à sortir, à briller. Accepte de t'humilier et laisse Jésus t'entraîner dans ton plan à toi qu'il a prévu. Ne cherche pas à être comme les autres. Paul a vécu toute sa vie sans se marier. Il n'a pas cherché à être comme les autres. Sarah a eu son fils à près de 80 ans. Bien-aimé, on n'a pas tous la même vie. Chacun a sa vie. Et qui nous renseigne sur notre vie, c'est Dieu. Ce n'est pas les autres. Ce n'est pas le schéma de notre passé où autrefois on était dans une famille riche et on devient chrétien. On veut encore vivre les mêmes choses qu'on vivait dans la famille où on était. Non. Dieu fera. Il nous amènera dans les verts pâturages. En même temps, il nous amènera aussi là où on veut pas aller. C'est ce qu'il a dit à Pierre. Je t'amènerai où tu ne veux pas aller. Pierre a dit, et Jean, que feras-tu de lui? Jésus a dit, ce que je ferai de lui, ça ne te regarde pas. Si je veux qu'il vive sans mourir, ce n'est pas ton problème. Tu n'as pas à dire, et lui? Non, et toi? C'est toi entre toi et Dieu. Nous avons un destin personnel, mais glorieux. Accrochons-nous à ce destin-là, avec Dieu. Accrochons-nous à ce plan-là et nous vivrons la gloire de Dieu, car la Bible dit, avec Dieu nous ferons des exploits. Amen.